Vous êtes à l'écoute de Radio Campus en 6,6 FM tous les mercredis 17h30-18h. Le magazine Lille Info accueille donc des personnalités de l'Université de Lille. Aujourd'hui, nous sommes avec Nabil El Aghar, vice-président de l'Université, chargé de la culture, chargé de la communication et du patrimoine. Bonjour Nabil.
Bonjour René.
Donc aujourd'hui, on va parler d'un thème qui est lié à, forcément à l'Université, puisqu'il s'agit de la pensée. Alors la pensée à l'Université, on imagine bien que ce n'est pas une pensée unique.
Surtout pas. Surtout pas, mais surtout que la pensée a toujours été un éternel combat à l'université. Et qu'aujourd'hui, on peut se poser la question si la pensée a encore sa place, ou suffisamment de place pour être plus, je dirais, plus réservée. Aurait-elle la pensée suffisamment de place à l'université? Et effectivement, c'est une question qui peut paraître paradoxale, puisque qui dit université dit pensée, puisque les universitaires pensent, mais tout le monde pense en effet, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi certains s'opposent cette question de savoir est-ce que la pensée a-t-elle encore sa place, ou a-t-elle la place qu'elle mérite à l'université?
Bon, déjà dans une université, on cherche, on recherche, donc on pense et on repense.
Bien sûr. En réalité, la question de la pensée, si on prend le cas de l'université occidentale, c'est-à-dire les universités dans le monde occidental, dans le temps, ont toujours bien connu de pressions diverses contre la pensée. Je ne reviendrai pas trop dans le passé, mais les universités ont été ont subi de pressions, ont subi de contrôles. À l'époque, par exemple, par l'Église, et on a il y a eu des proscriptions de textes de Descartes à la Sorbonne en 1675. Enfin, les universités n'étaient pas libres, n'ont pas toujours une histoire de liberté que l'on peut aujourd'hui, que l'on sait, que l'on connaît aujourd'hui. Donc le combat, c'est pourquoi je rappelle ça, c'est pour dire que combien le combat à mener pour obtenir la liberté de penser a été long et douloureux.
Tu veux dire qu'il y avait quand même un certain obscurantisme universitaire ou dans l'université?
Absolument, il y avait un obscurantisme, non pas dans l'université, mais il y avait un obscurantisme politique qui contrôlait, qui cherchait toujours à contrôler la pensée universitaire. Parce qu'on n'était pas encore dans ce pays...
La pensée ou l'expression de la pensée?
La pensée et l'expression de la pensée, ça va ensemble, hein. Souvent ça va ensemble. Mais on était dans un monde non démocratique. Et à aujourd'hui encore, on peut, pour rendre hommage à tous ceux qui souffrent de la non-démocratie, c'est-à-dire là où la démocratie est absente, encore aujourd'hui, l'université et les universitaires remplissent souvent leur rôle de force intellectuelle de contestation, de critique et de proposition. Encore aujourd'hui, beaucoup d'entre eux, d'ailleurs, paient au prix fort cet engagement dans certains pays, dans beaucoup de pays dits de Sud, de tiers-monde, dont cette liberté qui a été obtenue en Occident n'est pas encore présente dans les universités de ces pays-là.
Il n'y a pas que des pays du tiers-monde, hein. Il y a des pays relativement développés, mais qui sont sous contrainte, on va dire.
Exactement, qui sont sous contrainte et qui n'ont pas la liberté de penser. À partir de là, moi, je me suis intéressé par ma présence en tant qu'universitaire ici, en Occident. Je me pose la question en regardant, de la position où je suis, des questions que je traite dans ma position. Je me suis posé la question, est-ce que encore aujourd'hui, dans notre université occidentale, moderne, est-ce que la pensée a encore lieu de s'exprimer comme elle se doit? Et j'ai bien peur qu'elle a de plus en plus du mal à trouver sa place. Alors effectivement, on revient à ta question de le départ, c'est-à-dire que, mais de toutes les façons, on pense tout le temps à l'université, c'est vrai. Mais peut-être c'est là où les nuances méritent débat et méritent discussion.
Alors effectivement, on est sur une université donc de sciences, technologies, mais aussi de sociologie. Est-ce que les sociologues, parfois, ou les philosophes de l'université de Lille 3, par exemple, sont amenés à affronter ou se confronter à des scientifiques, par exemple, sur des règles éthiques, sur des principes? On a parlé de nanotechnologie avec tout ce débat rugissant, récent. Comment on gère ce genre de conflit?
Alors, en amont de ça, je dirais que... La première, peut-être, des choses à rappeler, à signaler, que bien que, évidemment, nous avons la totale liberté de penser, ici, aujourd'hui, hein, et qu'il n'y a pas de contraintes, il n'y a pas de menaces, il n'y a pas de crainte de vouloir ou de pouvoir s'exprimer, néanmoins, dans nos universités, il y a aujourd'hui une... un système beaucoup plus subtil que le contrainte à l'ancienne, je dirais, qui fait que aujourd'hui on est pris dans des contraintes de type, j'appelle ça l'éternel je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps, c'est-à-dire que l'universitaire aujourd'hui n'a pas le temps, et qui ça signale. C'est le signal d'une grande menace parce qu'on est débordé, parce qu'on est stressé par les contraintes administratives quotidiennes, par exemple, hein, parce qu'on est dans la course à la publication, à la publication et pas n'importe laquelle, dans des revues bien identifiées, parce que d'où d'ailleurs la hantise d'une carrière qui progresse peu, enfin... Toutes ces contraintes-là forment ainsi, je dirais, la principale menace de la vie intellectuelle universitaire. Mmh. Puisque pendant tout le temps que nous pensons le monde et non plus... pendant tout ce temps qu'on pense le monde dans sa généralité, on ne pense pas justement l'article ou le texte ou le domaine dont nous avons pour obligation d'exceller et pour pouvoir aussi progresser.
Donc, quand on publie dans une publication reconnue, on publie dans sa spécialité. Derrière, est-ce qu'il y a une pensée qui émerge et est-ce qu'elle est contrainte aussi? Est-ce que on a peur des réactions éventuelles par rapport à ce qui est exprimé dans des revues scientifiques?
Bien sûr, tout travail, y compris travail scientifique spécialisé. Et engendre, et en tout cas est le résultat d'une pensée souvent intense, et ça ne peut que engendrer une réflexion autour de l'objet que nous étudions. Simplement, je dirais que en même temps, il y a un risque de sous-tendre la réflexion intellectuelle universitaire au résultat de la recherche. Lorsque la réflexion de l'universitaire devient non seulement liée à sa recherche scientifique, mais qu'elle soit exclusivement en rapport avec la recherche scientifique. C'est là où on peut considérer que peut-être la pensée universitaire pourrait s'appauvrir.
Donc cet appauvrissement, il est lié non pas à la nature, j'allais dire, des études de ses propres chercheurs, à la diversité peut-être de leurs études. Il est plus lié à une spécialisation peut-être quand même, Et puis au fait du non-partage entre les disciplines.
Oui, c'est-à-dire que ce risque de sous-tendre la réflexion intellectuelle et universitaire au résultat de la recherche est nuisible en premier lieu à l'universitaire lui-même, dont la réflexion intellectuelle s'appauvrit dans une spécialisation et une technicisation à outrance. Il s'éloigne quelque part du monde qui l'entoure, puisqu'il est là, il est pris, il est débordé, il doit absolument conclure, si j'ose dire, pour que nos auditeurs comprennent ce que je veux dire, il doit conclure des résultats sur en rapport avec sa spécialité. Donc, il s'éloigne du monde qui l'entoure, et en second lieu, il s'éloigne de quelque part de la richesse d'une réflexion intellectuelle globale. C'est là le danger. C'est cet éloignement par contraintes diverses et variées dans la vie de l'universitaire qui ne cesse pas de penser, mais qui de plus en plus est amené à ne penser que sa spécialité et ses priorités, bien entendu, que l'on peut comprendre d'ailleurs par ailleurs, qui est sa priorité de avancer dans sa recherche spécialisée.
Est-ce que cette pensée, elle est en phase un peu avec les préoccupations sociétales? Est-ce qu'elle est en phase avec les réflexions qui sont menées par les citoyens d'une manière générale, ou est-ce que l'université est encore dans un monde clos?
Non, l'université, c'est une bonne question. C'est-à-dire que l'université n'est pas clos, justement, du point de vue de la pensée. L'université, l'universitas, l'universel, tout ça devait faire partie de même monde, c'est-à-dire que l'université pense le monde. Ça veut dire que les universitaires pensent le monde, réfléchissent, critiquent le monde. C'est dans les universités que, d'ailleurs, l'exemple, je donnais tout à l'heure l'exemple des universités dans les pays non démocratiques, ou même dans les pays qui sont sur la voie de la démocratie, mais qui sont dans le sud, c'est-à-dire le pays un peu pauvre, tiers-monde, comme on dit, on voit bien que l'universitaire joue encore un rôle fondamental dans la société du point de vue de la pensée universitaire. C'est-à-dire que la pensée universitaire va être un pivot autour duquel la critique politique, la critique économique, la critique sociale va être d'une grande richesse et qui va déborder sur la société et alors, sur l'ensemble de l'élite du pays en question.
Alors comment justement amener un apport et ne pas servir d'alibi? Est-ce qu'on apporte ce qu'on veut ou on amène ce que les autres, la société recherche, enfin la société dans laquelle on est, dans une certaine contrainte dans ces pays?
C'est-à-dire que on est attendu a priori, enfin on était attendu. La question est de savoir si encore aujourd'hui, une société comme la société française attend les universités à porter ce regard critique permanent sur la société française. Il se trouve que, évidemment, et ça c'est une situation très francophone, très française, qui sépare quelque part le monde universitaire d'un monde un peu à part que l'on peut appeler l'élite intellectuelle de la société, et ce qui est en soi très malsain, c'est-à-dire l'élite intellectuelle est supposée être à l'université aussi, et cette séparation entre une élite intellectuelle active qui peut être amené à poser son regard critique sur la société, est globalement séparé du monde universitaire, dans lequel on va trouver le monde universitaire qui, comme je disais, beaucoup de plus en plus préoccupé par les contraintes de la recherche et de la réflexion en rapport avec les spécialités universitaire et qui s'éloigne de plus en plus d'une vie intellectuelle plus large et plus débordante et donc forcément par rapport à ta question plus en rapport avec les questionnements au quotidien de la société française.
Alors, on dit que nul n'est prophète en son pays. Est-ce que c'est plus facile d'être écouté pour un universitaire français à l'étranger que dans notre propre pays?
C'est toujours, moi personnellement, j'ai toujours l'impression que c'est le cas, en France et ailleurs en général. Il est vrai qu'on n'est jamais plus prophète dans son pays. En même temps, beaucoup de... Je citerai Edgar Morin qui disait que l'intellectuel doit d'abord vouloir survivre et vivre comme intellectuel précisément parce qu'il subit de forces de dégradation interne énormes et qu'une formidable pression politique, idéologique, technocratique tend à le éliminer et le détruire. Donc, effectivement, l'intellectuel est en permanente, il est sous une permanente pression. Et c'est là où cela a un rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure. Il appartient à l'intellectuel universitaire de à la fois survivre parce que son travail d'intellectuel et sa réflexion d'intellectuel doit s'enrichir au fur et à mesure et en permanence, mais en même temps de résister aux contraintes imposées par les conditions nouvelles, modernes, par cette modernité qui est devenue aujourd'hui, que l'on peut signifié par la l'hyperspécialisation dont on a parlé tout à l'heure dans le monde universitaire et qui impose ces contraintes très fortes, de plus en plus fortes, et de contraintes administratives aussi, de plus en plus fortes sur ce même intellectuel. Et c'est là où je pense que la bataille, c'est parce que c'est une vraie bataille au niveau individuel, mais au niveau collectif aussi. Mais même individuellement, chacun d'entre nous est quelque part est écartelé entre à la fois sa volonté et son besoin de pouvoir penser la société, pour ne pas dire penser le monde, et en même temps les contraintes qui lui est imposée pour pouvoir exceller dans sa domaine de recherche hyper spécialisé.
Non, on a bien compris les contraintes, c'est-à-dire quelque part qui sont une forme de rendement, de rentabilité du chercheur.
Exactement.
Mais par ailleurs, les personnes qui sont aussi des esprits libres, universitaires, est-ce que ça aide d'être un universitaire pour s'exprimer? Et deuxièmement, est-ce que l'universitaire a un statut relativement protecteur qui l'aide en fait, ses collègues, l'université par elle-même ou la communauté internationale par exemple quand ce sont des chercheurs qui sont reconnus dans le monde entier?
Oui, bien sûr, oui. Il y a beaucoup d'universitaires qui malgré tout, malgré toute cette contrainte, et quand ils arrivent à dégager un peu de temps, participent à beaucoup de rencontres, participent à que ce soit par l'écriture ou que ce soit par l'oral, participent énormément à des débats en France et ailleurs. Et moi, j'en connais effectivement beaucoup. Qui apporte encore, malgré, je tiens beaucoup à la question de contraintes, malgré toutes ces contraintes, qui continuent à apporter une réflexion extrêmement riche, y compris sur le plan international, sans aucun doute.
Mmh. Donc là, on est en 2010. Pour toi, est-ce que la situation peut s'améliorer? Qu'est-ce qu'il faudrait pour qu'elle s'améliore? Est-ce qu'il y a une prise de conscience de ce que tu dénonces, c'est-à-dire ce cadre un peu normalisant et cette forme de censure par l'obligation de rester dans le cadre défini et rentable?
Je dois dire que je ne suis pas très optimiste, ce qui n'est pas bon, je le sais. Malheureusement, j'ai bien peur qu'aujourd'hui, la culture dominante étatique et par voie de conséquent universitaire est en train de s'imposer comme étant celle de l'excellence technique, c'est-à-dire de l'excellence en rapport avec la technicité et l'hyperspécialisation. Et la culture, au sens large du terme, c'est-à-dire la culture universitaire, cette culture dont toute universitaire rêvait et que toute personne qui va vers l'université rêve de trouver, de rencontrer, parce qu'elle est débordante, parce qu'elle est abondante, parce qu'elle est large, parce qu'elle est tolérante, parce que, etc. Cette culture-là est aujourd'hui a de moins en moins de place et qu'il faut travailler, il y a un problème, je pense, de prise de conscience aujourd'hui qui revient petit à petit et qui pousse certains à reconnaître. D'ailleurs, souvent, moi, je rencontre, pour l'anecdote, je rencontre souvent des collègues, des anciens collègues qui étaient sous cette contrainte-là et qui se sont fait avoir par la contrainte dont on parlait, les contraintes dont on parlait tout à l'heure, et qu'une fois à la retraite, je rencontre à travers une conférence ou quelque part, et là, ils disent « on s'est fait avoir ». On s'est fait avoir et aujourd'hui, j'essaye de rattraper le temps perdu.
Alors, je parlais tout à l'heure des nouvelles technologies. On a eu l'exemple à Lille, je pense, de contradictions, d'une société qui ne comprend pas toujours la recherche et ses objectifs. Est-ce que, au-delà de ces réactions, parfois épidermiques, parfois pleines de demandes de bon sens, j'allais dire, est-ce que quand des conférences tout public sont organisées, le public s'y intéresse réellement ou est-ce qu'il n'y a pas un déficit de communication des deux côtés?
Sans doute, il y a toujours un déficit de communication, mais il est vrai aussi que la société, il y a une mutation d'une manière générale vis-à-vis de la culture, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est plus à la recherche d'une culture spectaculaire plutôt qu'une culture de réflexion, d'échange et de débat. Mais par rapport à la recherche scientifique universitaire et le rapport avec le public, il est vrai que aussi et toujours dans le même esprit de que nous venons, dont on vient de discuter, nous n'avons, comme je disais tout à l'heure, on n'a jamais le temps, et entre autres, on n'a pas le temps non plus, non seulement de réfléchir et de penser autre chose que ce qui est absolument nécessaire et immédiatement fait, mais au-delà de ça, nous ne prenons pas le temps de penser, par exemple, comment apporter à la société des réponses sur les questions qui se posent sur ce que nous faisons en matière de technologie et de technique. Plus grave, peut-être encore, selon moi, c'est que nous ne prenons pas ce recul nécessaire, comme disait Hannah Arendt, ce recul qui permet à l'homme de ne plus rester dans la survie, mais plutôt de pouvoir prendre ce recul nécessaire pour penser ce qu'il fait. Et je prends pour exemple les questions éthiques. La société a besoin aujourd'hui de réponses sur les côtés éthiques de ce que nous faisons en matière de technique et de nouvelles technologies.
Bien, merci Nabil Lagarde. Donc les chantiers sont nombreux, on les retrouvera certainement au moins à l'espace culture de l'Université de Lille. Au revoir.
Merci René.